et à Olga et Jean-Jacques et Christian et Laurence ne sera pas là malheureusement parce que à cause des grèves elle est à Toulouse là actuellement donc elle n'a pas pu prendre un train. Christian Cadéré aussi et Constantin Privelakis. On a voulu que ça soit vraiment quelque chose de représentatif, je ne dirais pas des juridictions, mais des sensibilités orthodoxes, parce qu'ils sont tous français, orthodoxes français. Et donc on va s'installer là. Donc l'idée de la table ronde, en fait, c'est de terminer avec une prospection, je dirais, pour l'avenir. Et qui mieux que la jeunesse montante, je dirais, de l'orthodoxie en France, qui reprend le flambeau et qui, vous allez voir, à chacun à sa manière, a un témoignage très particulier et très unique. L'idée de base, en fait, c'était comment être et se transformer en force de proposition, parce que c'est ça l'idée. Il faut un peu du concret aussi dans l'Église orthodoxe. Tout en ayant un bon discernement sur les situations de celles et ceux qui les font et en faisant le bon constat et essayer d'être utile à l'Église en Église. Et je pense à leur manière, chacun d'eux essaie de le faire. Sur une idée géniale de Jean-Jacques, on a décidé un peu de diviser la table ronde en trois temps. Le premier temps, c'est un peu le constat actuel, je dirais, des jeunes, comment les jeunes voient un peu la situation. Les manques, peut-être, et troisièmement, les solutions envisageables. Je dirais un peu une prospection d'avenir pour ne pas rester sur quelque chose de négatif. Et avant cela, je voudrais demander à chacun d'eux, peut-être, de nous dire en amont ce qu'ils font un peu, comment ils vivent leur orthodoxie aujourd'hui, quelles sont les entreprises dans lesquelles ils s'investissent. Ils sont partie prenante. Alors, il y a Syndesmos, il y a l'écriture pour Olga, il y a Christian qui s'occupe de Nepsis. Voilà. Donc, je commencerai par Cyril. Et on va suivre le...
Merci, Carole. Donc, Cyril Sologoub, je suis membre de la paroisse Saint-Jean le théologien à Meudon, qui est une paroisse francophone. Je suis là-bas occasionnellement chef de chœur. Et je suis investi dans la Fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, Syndesmos. Je représente l'Europe occidentale au sein du Conseil donc de Syndesmos, qui est une fédération dont le père Boris a parlé tout à l'heure et qui a pour vocation de renforcer les liens entre les différentes églises locales orthodoxes et, de façon plus vaste, les liens d'unité entre les chrétiens.
Donc moi je suis Christian Cadéré, donc je suis d'origine roumaine, mais je suis né en France et j'appartiens à la paroisse de Limours, qui est la paroisse de la métropole orthodoxe roumaine. En tant qu'engagement, j'appartiens à l'association Nepsis, qui est l'association des jeunes orthodoxes de la métropole roumaine, qui a été créée à l'initiative de Monseigneur Joseph il y a cela plus de 7 ans. Et donc à laquelle j'appartiens depuis sa création et dont je suis actuellement le président depuis 3 ans. Donc moi, enfin cette association a plus un caractère roumain pour l'instant et a eu un caractère roumain. Donc moi, ce dont je vais parler, c'est de ce que je connais, ce qui est pour l'instant, et peut-être dans un autre temps de la conférence, de la table ronde, on parlera de ce qui peut se faire après. Donc c'est une association qui a beaucoup travaillé pour fédérer les jeunes roumains. Surtout de la paroisse de Paris et des paroisses d'Italie et d'Espagne plus récemment. C'est une association qui a aussi essayé de faire connaître la richesse de la Roumanie à différents jeunes, cette fois-ci de différentes juridictions et de différents pays, par l'organisation de plusieurs pèlerinages, dont le premier a été fait par Syndesmos, et que Nepsis a repris et par ses pèlerinages a fait connaître les richesses et la beauté de la tradition roumaine. Et sinon, en tant qu'engagement, autre engagement, je participe à une association, enfin à l'association Restaurant du Cœur, qui n'est pas donc une association qui se veut orthodoxe ou chrétienne, mais qui, je pense, est un moyen de témoigner de l'engagement chrétien.
Ça marche. Bonjour, je m'appelle Constantin Prévelakis. Je voudrais d'abord remercier Mgr Emmanuel et Carole Sabat, qui ont pensé à moi pour ce panel des jeunes. Je dois dire que c'est flatteur, parce que ce titre de noblesse de jeunes, j'en suis déchu depuis quelques années déjà, par nombre de cinémas, théâtres, associations de trains, avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Donc, c'est flatteur, je vous remercie. Deuxièmement, je suis un cas peut-être un peu plus complexe que les autres ici, sachant que je ne sais pas si ça s'appelle une première génération. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans en Grèce, où j'ai eu le rapport qu'ont tous les élèves grecs avec l'orthodoxie, c'est-à-dire le catéchisme à l'école pendant une année, mais à part cela, une relation avec l'Église, les mariages, les baptêmes, la semaine sainte, jeudi, vendredi et la soirée de Pâques. Et à part ça, c'était la relation avec l'Église. À 6 ans, je suis venu en France, où j'ai suivi une scolarité en France, d'abord dans un primaire qui était catholique, ensuite dans un collège qui était privé laïque, pour terminer dans un lycée public anticlérical. Je voudrais dire que dans ces années-là, j'ai continué à avoir avec l'Église, désormais avec Saint-Stéphane, avec la paroisse de Saint-Stéphane de Paris, la même relation que j'avais eue en Grèce. Ce n'était pas très dense. Il y avait deux journées qui s'étaient ajoutées au rituel de la présence à l'Église, mais je crois qu'elles sont significatives. C'est le 25 mars et le 28 octobre, les deux fêtes nationales grecques. Tout cela jusqu'à l'année 1995, lorsque le patriarche œcuménique est venu en France et que Mgr Jérémy, que j'ai eu la joie de revoir, un peu, pas paniqué, mais un peu impressionné par la mesure de la tâche, a fait appel à toutes les bonnes volontés pour venir aider matériellement à la visite du patriarche. Et c'est comme ça qu'à 18 ans, je suis un peu entré un peu plus en profondeur, de manière un peu collatérale peut-être, dans les structures de l'Église. Ça n'avait rien de spirituel de coller des enveloppes ou d'aider à l'organisation d'une visite du patriarche. Mais je dois dire que c'est par cette voie, d'abord j'ai ouvert une relation de collaboration qui ne s'est pas arrêtée depuis. Ceux qui viennent à l'Église orthodoxe peut-être le savent. Et d'autre part, c'est cette collaboration qui m'a permis un peu, sans avoir une quelconque, je pense, consolidation théologique, d'entrer empiriquement dans l'Église et de commencer empiriquement à comprendre ce qu'est l'Église et à chercher une relation avec ce qu'on appelle l'orthodoxie. Je termine, je pense qu'on en dira la suite tout à l'heure sur les problèmes, donc voici pour la présentation. Donc ma relation avec l'Église, c'est avec l'Église orthodoxe grecque, je ne connais pas très bien ce qui se passe dans les autres paroisses, et c'est cette relation un peu entre collaboration un peu technique et découverte empirique. Merci.
Olga, très bien.
Donc je m'appelle Olga Loski, je suis d'origine russe. En ce qui concerne mon appartenance paroissiale, je dirais que je suis un petit peu à cheval sur trois paroisses. Je fréquente la paroisse de la Sainte Trinité dans la crypte de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, rue d'Aru. La paroisse Notre-Dame-Joie des Affligés, rue Saint-Victor. Et la paroisse de Saint-Jean le théologien à Meudon. Je suis aussi membre de l'ACRMJO, l'Action chrétienne des étudiants russes. C'est un petit peu là où j'ai grandi en église, je dirais, parce que c'est à la serre que c'est là où je suis allée dans les camps d'été pour la jeunesse, et c'est vraiment là que j'ai aussi pu connaître une vie ecclésiale intense. Et depuis quelques années aussi, je suis impliquée dans un nouveau projet qui s'appelle le Festival de la jeunesse orthodoxe. Qui existe en tant que festival depuis quelques années, mais qui en fait n'est que la continuité d'autres manifestations qui ont toujours le même but, c'est-à-dire de faire se rencontrer des jeunes orthodoxes de toutes les juridictions, de toutes les origines, les faire se rencontrer en France, faire se rencontrer des personnes donc qui partagent la même foi et les mêmes convictions. Et en fait, le festival, c'est, je dirais, tout simplement une rencontre d'amitié. C'est une histoire d'amitié entre des personnes d'origines différentes, de juridictions différentes, de parfois de langues liturgiques différentes, de cultures différentes, mais qui tous veulent vivre la même chose ici et maintenant.
Je m'appelle Jean-Jacques Laham, je suis à la fois d'origine libanaise et d'origine russe, donc une sorte de salade russo-libanaise. Du coup, j'ai la chance d'avoir baigné à la fois dans différents milieux. Je vais du coup dans deux paroisses, à la fois la paroisse de la crypte de la Sainte Trinité à la rue d'Aru, et dans la paroisse antiochienne qui célèbre le samedi soir rue Georges Bizet, la paroisse Saint-Étienne. Juste très rapidement, je dirais que j'ai découvert, disons, l'orthodoxie de façon très plus vécue grâce à Syndesmos, et j'ai eu l'impression de pouvoir le mettre en pratique à travers le festival de la jeunesse orthodoxe dont parlait Olga. Voilà.
C'est une présentation un peu rapide de ce qu'ils font. Ils font tellement d'autres choses intéressantes. Alors, ce qui serait intéressant maintenant, c'est de passer, de voir un peu quel est votre regard aujourd'hui sur la réalité. Et qu'est-ce qui manque, je dirais, dans la réalité orthodoxe en France, dans le travail de la conciliarité, dans le travail de l'Assemblée des évêques, comment, en fait, rendre les choses beaucoup plus de communication, je dirais, entre l'Assemblée, les jeunes et les autres. Et quelles sont vos propositions pour l'avenir ? Cyril.
Merci. Donc, mon engagement au sein de Syndesmos m'a permis de beaucoup voyager et d'être confronté à différentes réalités du monde orthodoxe. Et ce que j'ai retiré de cette expérience, c'est le fait qu'il y a véritablement une spécificité occidentale et même une spécificité française à l'orthodoxie. C'est-à-dire cette redécouverte qui a eu lieu ici au cours du XXe siècle, du sens de l'Église comme communauté rassemblée pour célébrer l'Eucharistie, c'est dans un contexte tout à fait extraordinaire de liberté, de confiance, d'amitié, de pauvreté, eh bien, a développé une particularité, une richesse, disons, de l'orthodoxie dans le monde, une richesse dont le monde orthodoxe a énormément besoin, et de façon plus large, le monde chrétien et le monde tout court a énormément besoin. C'est pour nous une cause d'énormes responsabilités, et je crois qu'il faut tout d'abord être conscient de cela et réfléchir à comment essayer de poursuivre ce renouveau, de le transmettre en tous les cas. On pourrait dire beaucoup de choses sur cette spécificité, cette ouverture et ce dialogue au monde moderne, ce dialogue avec les autres chrétiens. Je crois que les orthodoxes en France sont extrêmement bien placés pour mener un dialogue fructueux avec les autres chrétiens. Donc je crois que dans notre réflexion sur l'orthodoxie en France, il faut avoir conscience de cet énorme héritage dont nous sommes donc porteurs, et en être, dans la mesure du possible, digne. Alors comment, on pourra y réfléchir tout à l'heure. Je transmets la parole à Christian.
Moi, j'aurais un avis à donner sur le fonctionnement, en tout cas, pour l'instant, des associations de jeunes. Parce que, donc, je pense que chaque association de jeunes, dans son éparchie, hérite d'une certaine façon de la tradition de l'éparchie dont elle vient. Effectivement, moi par exemple, j'ai connu la serre aussi, je suis allé au camp de vacances dont parlait Olga, et j'ai vécu des choses très enrichissantes là-bas. Et donc, comme l'a souligné Cyril, ici en France, l'orthodoxie, donc la diaspora russe qui est présente depuis de nombreuses années, a redécouvert des choses qui méritent être partagées avec les autres, nous qui arrivons, qui sommes arrivés depuis plus récemment, donc, et en échange, Nos éparchies, donc nous, par nos associations de jeunes, pouvons faire profiter les autres jeunes venant d'autres éparchies de la tradition des églises dont on vient. Et là, je parle encore une fois de l'expérience que j'ai eue, dont je vous parlais, des pèlerinages que nous avons faits en Roumanie et qui ont rassemblé donc des jeunes venant de pays différents, d'éparchies différentes et de traditions différentes, et qui se sont nourris de ce qu'ils ont vu et qu'ils ont vécu là-bas, et qui, en échange, en témoignant, parce que ces pèlerinages qu'on a fait avec Mgr Joseph ont aussi été l'occasion pour que les jeunes donc, qui venaient d'Occident témoignent en Roumanie de la réalité des choses qu'ils vivent et qu'ils ont découvertes en Occident. Donc ça a été à la fois un apprentissage des jeunes de la tradition roumaine, que je cite en exemple, mais à la fois pour les Roumains, l'occasion d'ouvrir un peu leur champ de vision et de découvrir qu'en France, qu'en Occident, il existe une orthodoxie riche, vivante, et qui peut leur faire redécouvrir ou leur faire découvrir des choses dont ils ont besoin. Donc, moi, c'est surtout ça que surtout sur ce point que j'aimerais insister, c'est le besoin que nous avons de travailler ensemble et de ne pas faire tous, chacun dans notre coin, nos activités, mais de faire un effort pour que toutes les associations, donc tous les jeunes et nous espérons aussi nos évêques, fassent le maximum de choses, le maximum d'activités ensemble pour que nous profitions de la richesse de chacun.
Bon, ben, puisqu'on entre dans le vif du sujet, d'abord, je crains fort que je vais avoir beaucoup plus de questions à poser que de réponses à donner. Deuxièmement, ayant, je pense, beaucoup moins d'expérience ici, paroissiale, que mes camarades ici, et ayant utilisé comme mot-clé de ma présentation le mot empirisme, je continuerai sur cet axe. Je me souviens qu'en l'an 2000, la métropole m'a envoyé avec une délégation de 10 personnes à Istanbul, Constantinople, pour participer à la première conférence de la jeunesse orthodoxe. Ça a été pour moi une expérience passionnante. Ça a été passionnant en partie parce que ce n'était pas une conférence de la jeunesse orthodoxe, c'était une conférence, à mon avis, de la jeunesse grecque orthodoxe. C'était extrêmement rassurant. Parce que je me suis retrouvé dans un réseau de personnes, de jeunes, qui étaient confrontés aux mêmes difficultés que moi, de concilier une tension entre un pays d'origine et un pays d'habitation. Et le patriarcat et la culture grecque orthodoxe qu'ils voulaient faire passer donnaient un moyen de concilier ces deux aspects. Tout à coup, je devenais partie d'un archevêché, d'une métropole, membre d'un réseau de métropoles à travers le monde, qui étaient implantés et enracinés dans mon pays d'habitation. C'était rassurant, et en revenant de Constantinople, je me suis engagé plus dans l'Église. Je me suis pris à suivre tous les offices de la Semaine Sainte, ce que je n'aurais jamais imaginé faire quelques années auparavant. Et tout cela en essayant de comprendre ce qui s'est passé dans les offices, les messages que voulaient me faire passer les offices, sans recourir à des textes, mais en essayant de comprendre, en voyant les prêtres, en voyant le métropolite, en voyant la façon d'enchanter le cœur, etc. Ça a été extrêmement enrichissant, ça m'a soutenu dans des périodes très difficiles. Et ça fait maintenant, ce congrès a eu lieu il y a 7 ans, mais il arrive de se poser des questions, et c'est là que je veux en venir, et je pense que je suis un peu dans l'axe de ce qui a été dit tout au long de ces journées. Je me pose la question qu'il est quand même parfois assez bizarre dans l'Église de me sentir d'abord grec orthodoxe, de me sentir français d'origine grecque, avant de me sentir tout simplement chrétien de France. Et c'est un problème que j'ai voulu voir, que j'ai voulu discuter lorsque je suis allé l'an dernier à la seconde conférence de la jeunesse orthodoxe du patriarcat, cette fois-ci en tant que vétéran de ma délégation. Et j'ai vu à mon grand plaisir que le slogan, disons la phrase clé de ce congrès, avait réussi à synthétiser la tension que je sentais. La phrase clé, c'était « citoyen du monde, membre de l'Église ». C'était exactement ça. Réussir à concilier, ce besoin de résoudre des problèmes identitaires quotidiens avec le sentiment d'être membre d'une église, une canonique, apostolique, catholique. Je dis dans le désordre. Et je me dis que lorsque tous les dimanches on dit le credo et qu'on redit cette phrase, est-ce que j'y trouve un sens ? Je termine encore par une question. Citoyen du monde, membre de l'Église, j'ai parfois l'impression que le patriarcat, je parle toujours du patriarcat que je connais bien, y répond en fusionnant toutes ces notions et en nous encourageant à être des citoyens de l'Église, disons. Alors, si c'est le but, en ce qui me concerne, c'est atteint. Et je vous assure que ça résout beaucoup de problèmes identitaires. Mais est-ce le but ? Merci.
Peut-être pour rester dans la lignée un petit peu de tout ce qui vient d'être dit et peut-être résumer un peu tout ça, je crois que ce qu'on peut voir des trois témoignages que l'on vient d'avoir, c'est la différence, la très grande diversité d'histoires de chacun, notamment d'héritage vis-à-vis de notre foi orthodoxe. Notre foi vient pour chacun d'entre nous qui sommes là de pays dits de tradition orthodoxe. Et il se trouve qu'on se rend compte parce qu'on se retrouve tous en France et on n'a pas du tout chacun le même rapport avec cette tradition-là. Certains viennent d'émigrer en France, d'autres sont là depuis plusieurs générations, donc se sentent avant tout français et orthodoxes. Et peut-être que ça pose la question de savoir comment aujourd'hui vivre notre orthodoxie en France avec cette diversité-là, en respectant cette diversité, non pas en niant ces histoires qui sont différentes et en disant voilà, on est tous orthodoxes et il n'y a que cela qui compte. Il faut voir que chacun a une sensibilité différente, peut-être des traditions différentes aussi. Et voilà, à notre niveau, se demander comment vivre ensemble, comment vivre cela ensemble. Et peut-être aussi, justement, en prenant exemple sur nos évêques, que nos évêques, chacun d'origine, de traditions différentes, nous donnent l'exemple de ce vivre ensemble, de cette unité dans la diversité dans l'Église.
Bon, un dernier témoignage. Juste un exemple, justement, bon, on va essayer de rester dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, une façon de vivre donc cette diversité, cette unité dans la diversité. Je vais prendre l'exemple du festival de la jeunesse orthodoxe qui se réunit. Alors pour le coup, c'est à Paris une fois par mois. Il y a un festival qui rassemble des Français venant de toutes sortes, de toute origine et de toute région une fois par an. Mais une fois par mois, il y a ce désir de se retrouver pour aller à l'essentiel et se dépouiller de tout ce qui fait un peu obstacle à l'essentiel et donc se réunir pour prier ensemble. Une fois par mois, on se retrouve dans une église, l'église, pour le moment, c'est l'église d'Archange, rue Jean de Beauvais, pour célébrer des vêpres ensemble, le mercredi soir, le premier mercredi de chaque mois. Et on se retrouve pour prier et ensuite, la prière est suivie d'agape et d'agape fraternelle et conviviale. Juste pour dire que ce qu'on essaye de faire là, c'est vraiment essayer de se départir de tout ce qui peut sembler à première vue, je dis bien à première vue, pour un jeune, un obstacle, ce qui peut paraître une épaisseur, tous les problèmes juridictionnels, canoniques, qui pour des jeunes, dans le monde dans lequel on vit, peuvent, alors c'est peut-être un peu difficile de le dire, mais peuvent être un frein, peuvent être un obstacle à la prière et à comprendre vraiment la transparence et la simplicité, je dirais, du message chrétien, qui est tout simplement, donc, comme l'a rappelé le père Boris, c'est regarder comme il s'aime. Et tout notre effort, c'est d'essayer de porter notre regard uniquement vers l'essentiel et penser et espérer, en tout cas, que toutes les questions juridiques, toutes les questions ecclésiales qui sont sans doute importantes, mais se résolveront par la suite. Nous essayons en tout cas de avec nos faibles moyens de... Alors, ça peut être un peu prétentieux de citer cette phrase, mais c'est de rechercher le royaume et le reste viendra par surcroît. Et c'est vraiment ça, l'effort qui nous anime et ce sur quoi nous nous concentrons. Et c'est vraiment donc rechercher une certaine pureté évangélique, pureté dans la prière, et encore une fois, peut-être que les problèmes juridictionnels canoniques se résoudront de même. C'est une unité dans la prière, l'unité dans la rencontre de l'autre, dans la richesse de l'autre, de sa tradition. Le fait qu'on soit effectivement avant tout citoyen du ciel, et ensuite citoyen de telle ou telle nationalité, ben peut-être que ça nous permet de mieux comprendre, de mieux résoudre et de mieux vivre dans ce monde et d'apporter un témoignage aux questions de repli identitaire et autres, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler.
On va terminer avec un tour de rap, mais très rapide, de chacun de vous, peut-être une idée, une proposition, comment il voit son rôle de service à l'intérieur de l'Église orthodoxe de France, dans le cadre de l'Assemblée des évêques ou dans des commissions, parce que vous avez tous vos activités et ce que vous faites est très panorthodoxe, c'est très important. Comment faire davantage? Et voilà, chacun une proposition et chacune.
Alors, je crois qu'il est temps de reconnaître qu'il y a quand même une baisse de la conscience catholique de l'orthodoxie en France. Et le peu de personnes présentes aujourd'hui en est peut-être un exemple. Je me souviens de la première journée de l'orthodoxie en 2001, la salle était remplie, et voilà 6 ans plus tard que la salle est à moitié vide, ou à moitié pleine. Je ne pense pas que les grèves soient la seule raison. Je pense qu'il est temps de reconnaître qu'il y a un certain désintérêt, et il faut essayer de comprendre pourquoi, un certain désintérêt, un certain recul par rapport à tout le travail qui a été fait dans les années 70, 80, dont on nous a beaucoup parlé, et dont nous sommes, nous les jeunes, tout à fait conscients et très heureux, mais que depuis... quelques années, 10-15 ans, il y a quand même un recul et une sorte de retrait, repli identitaire de la part des orthodoxes en France. Et un désintérêt de ce qui peut se faire en vue de la construction d'une église locale. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et mon sentiment, c'est que les laïcs et les jeunes se sentent de moins en moins concernés par tout ce... C'est ce que je ressens, de moins en moins concerné par tout ce que peut faire, par tout le travail que peut faire l'Assemblée des évêques. Et ça, c'est tout à fait regrettable. En 1997, il est clair que la transformation du comité interépiscopal en Assemblée des évêques fut un jalon important pour la construction de cette église locale. Néanmoins, il faut regretter que les laïcs sont moins impliqués, si ce n'est au travers de ces commissions, commissions qui n'ont pas l'air de fonctionner si bien que cela. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas eu de rapport du travail de ces commissions, et finalement, on ne sait pas trop si elles se réunissent, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles décident, etc. Là aussi, je pense que alors il est tout à fait souhaitable, comme M. Yann Arras l'a rappelé tout à l'heure, que cette Assemblée des évêques devienne un synode, et nous le souhaitons tous. Mais finalement, nous avons perdu... L'Assemblée des évêques n'est toujours pas un synode, et les laïcs ne siègent plus en tant qu'experts, comme ils le faisaient au temps du comité interépiscopal. Donc je pense qu'il faut effectivement essayer de redynamiser, par exemple, les commissions, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles ne fonctionnent pas. Et je sais que les jeunes sont tout à fait prêts à s'impliquer et n'ont pas été sollicités, d'ailleurs, pour faire part de ces commissions. Et je pense qu'ils seraient tout à fait prêts à le faire.
Une implication plus grande des jeunes et d'autres, des laïcs, dans les commissions de l'Assemblée des évêques.
Voilà, de même que je pense que je regrette un petit peu que nous savons que l'Assemblée des évêques est allée voir certains primats d'églises locales, Et je pense que les laïcs également auraient pu accompagner ces évêques, et en particulier les jeunes. Nous aurions beaucoup aimé être invités et accompagner nos évêques pour montrer que l'Église, effectivement, est vivante ici. Voilà, donc c'est une proposition que j'aurais à faire.
Merci, Cyril. Christian.
Moi, j'aimerais dire deux, trois mots en liaison avec le témoignage, qui est après tout le thème aussi de cette table ronde, et surtout l'importance de témoigner de notre foi dans les faits. Donc ça, c'est plus quelque chose qui m'est sensible. Donc comme je vous ai dit, par mon engagement dans les Restaurants du Cœur, je pense que nous les jeunes et nous les orthodoxes, nous avons la mission de nous engager plus socialement pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Parce que moi, ce que je vois tous les vendredis soirs à Saint-Lazare, ce sont des gens donc qui viennent surtout en majorité de pays de l'Est. Donc moi, je vois énormément de Roumains, de Russes, de Polonais, de Serbes, donc des gens qui sont donc très proches de nous, ne serait-ce que par leur pays d'origine, et qui ont énormément besoin d'aide. Et donc, en dehors de l'aide, évidemment, des vêtements ou de la nourriture qui peut être distribuée, l'aide que peut apporter quelqu'un qui leur parle dans leur langue, qui est devant eux et qui leur parle dans leur langue et qui peut les aider à résoudre des petits problèmes de traduction, par exemple, des petits détails, mais qui sont très, très importants pour eux. Et donc, je pense qu'on devrait s'impliquer plus. Les mouvements de jeunes et, sous l'impulsion et avec l'aide des évêques, à s'impliquer plus pour aider le prochain qui est devant nous et qui a besoin de notre aide. Et donc, évidemment, il y a ce prochain qui peut être issu de l'immigration, mais rien qu'en France, il y a tellement de personnes à aider et tellement de personnes dans le besoin.
Très bien. Merci, Christian. On va avancer rapidement.
Écoutez, Carole, moi j'avais prévenu que j'avais plus de questions à poser que de réponses à donner. Néanmoins, je voudrais faire un petit complément qui peut-être s'inclura dans cette troisième partie. Il y a quand même une tendance beaucoup à accuser de tous les maux ce fameux repli identitaire et cette dimension un peu nationale, communautaire des églises orthodoxes. Je suis là encore empiriquement, je suis extrêmement mesuré là-dessus. Dans mon expérience et dans ce que je vois autour de moi en France, la question identitaire et la question de la quête identitaire est une formidable porte d'entrée dans l'Église orthodoxe. Et ce n'est pas seulement pour des jeunes, et ce n'est pas seulement pour des deuxièmes générations. Je dois vous dire que j'ai des amis étudiants grecs. Je me souviens, j'ai le souvenir d'un de mes amis qui m'a dit à un moment, écoute, moi qui rechignais à aller à l'église, même à Pâques, je me retrouve à me réveiller à 9h du matin tous les dimanches pour aller à l'église. Et c'était une parole qui m'était venue spontanément, complètement. Alors, je crois que la porte est bonne. C'est l'édifice ensuite qu'il faut un peu remodeler. Et bien sûr, ce sont très facilement peut-être des discours théoriques, mais s'il est question de revoir cette question de l'unité des orthodoxes, il faut tenir compte vraiment de ce point. L'Église orthodoxe, je parle encore du cas grec, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres paroisses, apporte un formidable service à beaucoup de personnes en quête d'identité. Ensuite, il appartient, et l'Assemblée, je le dis à l'Assemblée, il appartient de comprendre, une fois qu'on a traversé ce seuil, de savoir ce qu'on fait.
Merci. Olga.
Alors moi, je voudrais tout d'abord rebondir un petit peu sur l'intervention de Cyril, pour abonder dans son sens en apportant le témoignage, non pas mon témoignage, mais le témoignage d'une personne que l'on n'a pas encore citée aujourd'hui, mais qui, je pense, a joué un rôle assez essentiel dans la fraternité orthodoxe et peut-être aussi dans la création du comité du comité de coordination de la jeunesse et ensuite du comité des évêques. C'est Elisabeth Bersigel, sur la biographie de laquelle j'ai eu la chance de travailler, et cette idée de conciliarité, de relation panorthodoxe, c'était une question qui pour elle était primordiale et essentielle. Et elle avait, quand elle évoquait un petit peu tout le travail de la fraternité, du comité interépiscopal, on sentait son enthousiasme et cette joie de voir que les orthodoxes collaboraient enfin étaient tous unis dans le même mouvement. Mais quand elle évoquait la situation actuelle, puisqu'Elisabeth Bersejal est décédée il y a 2 ans, quand elle évoquait comment était l'orthodoxie en France aujourd'hui, elle était toujours démotivée par les dissensions nouvelles qui émergeaient. Et aussi dans les conversations que j'ai pu avoir avec Olivier Clément, il y avait ce même regret de voir qu'aujourd'hui on assistait à un certain tassement, un certain peut-être repli identitaire des différentes communautés. Donc peut-être qu'aujourd'hui il faut vraiment essayer de mettre l'accent sur cette consularité, cette communication, essayer de communiquer, d'œuvrer ensemble à des niveaux très modestes aussi, peut-être par exemple en commençant par essayer d'organiser la catéchèse ensemble au niveau des paroisses parisiennes, que ce soit des enfants et des adultes, aussi sur le plan des relations œcuméniques, de s'impliquer ensemble dans des groupes œcuméniques. Et puis pour reprendre ce qu'a dit Christophe, je pense que l'objectif de tout cela, c'est quand même aider l'autre, aider la personne dans le besoin. C'est ça le message essentiel de l'Évangile, de transmettre notre espérance et notre foi dans le Christ ressuscité. Et je pense que peut-être que si on n'est pas aujourd'hui en mesure de monter ensemble une action sociale, eh bien pourquoi ne pas nous engager ensemble dans des actions sociales déjà existantes, comme par exemple les Restos du Cœur. Mais je pense aussi à des organismes religieux tels que la Communauté catholique de Santa Egidio, qui fait beaucoup de choses pour les personnes en détresse. Et peut-être que ça pourrait être une manière de vivre ensemble l'Évangile, de témoigner ensemble de notre foi, que de s'engager ensemble dans ce type d'activité.
Très bien. Merci.
Je vais être deux. Je pense qu'on a beaucoup de bonnes idées qui ont été apportées. Il y a 2 points que je soulignerais peut-être davantage. Le premier, c'est le fait que là, on est très très parisien. Il y a beaucoup d'orthodoxes en dehors de Paris. Je pense qu'on a peut-être. Enfin, je pense qu'ils. Alors, je suis bien placé pour le dire parce que je suis encore plus parisien peut-être que beaucoup de gens à cette table, mais de ce que les échos que j'ai pu avoir, ou de Laurence Muguet qui est à Toulouse aujourd'hui n'a pas pu parler, je pense que ça aurait pu être intéressant. Elle aurait pu se faire l'écho d'orthodoxes qui ne sont pas à Paris et qui peut-être souffrent encore plus d'une certaine disparité. Je pense que là, il y a peut-être un travail de coordination à faire qui pourrait être intéressant et utile. Deuxième point, très rapidement, c'est un peu en lien aussi avec ce qu'on disait sur le. Je pense que le dialogue écuménique peut nous aider paradoxalement à mieux nous souder et mieux nous consolider notre foi. D'abord parce qu'on, je crois qu'on apprend des autres confessions, des autres chrétiens, et je crois que ça nous apprend aussi peut-être ça nous oblige à avoir un meilleur approfondissement de notre foi. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Troisième point, j'insisterai sur un point qu'a développé Olga, c'est la catéchèse. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs. Enfin, il y a peut-être typiquement, c'est vraiment un axe sur lequel tous orthodoxes, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre région, quelle que soit notre vision, je dirais presque ecclésiologique, la catéchèse à des enfants, c'est bien. Un exemple où on peut travailler ensemble, se mettre en commun, pour essayer d'avoir le même type de documents, le même type de texte, réfléchir à une pédagogie. Je pense que là, ça serait vraiment très enrichissant. Il existe la catéchèse orthodoxe existe. Peut-être que la revivifier ou essayer de s'en inspirer et de s'impliquer nous, à la fois de ce qui a été fait, nous impliquer dans le futur. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant.
Très bien, merci beaucoup.